Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Tu dis tout le monde ce soir, hein ?
Oui, bah oui.
Bah oui, on est trois.
Ben voilà, c'est ça. Et alors, puis il y en a aussi beaucoup plus de trois, j'espère, qui nous écoutent.
Ah ben bien sûr. Alors nous parlerons d'art aujourd'hui, ça nous fera du bien Didier, avant d'évoquer l'écocide.
Ce sera moins artistique.
Voilà, avant d'évoquer l'écocide dû à un herbicide défoliant utilisé par les Américains en Asie du Sud-Est, le fameux agent orange, qui a fait des millions de victimes. Nous rendrons ainsi hommage à Tran Tonga, une femme qui se bat contre ces géants de la pétrochimie comme Monsanto, que l'on peut qualifier de criminels de guerre.
Là, difficile de dire autrement.
Voilà, t'es d'accord avec moi, Didier.
Totalement.
Mais avant cela, pour parler d'art, nous avons une invitée, une artiste, et Cécile Carré. Alors j'ai dit laquiste, est-ce qu'on dit laquiste, Cécile Carré ?
Oui, ou laqueuse.
Laqueuse
d'art.
Okay. Laqueuse d'art, oui, voilà. C'est beaucoup plus joli. Donc on a Cécile Carré qui a bien voulu répondre à notre invitation. Et l'œuvre de Cécile est imprégnée du goût de l'Asie qu'elle partage avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour à vous.
Et un grand merci encore d'avoir répondu à notre invitation.
Alors bonjour Cécile, moi j'ai tout de suite envie d'en savoir un petit peu plus, parce qu'il y a quelques mois vous avez exposé votre travail à l'espace Gambetta, et vos œuvres délicates inspirées de la nature ont illuminé ce lieu. Donc d'où venez-vous Cécile, quel a été votre parcours avant de devenir laquiste, enfin artiste laquiste?
Laqueuse d'art.
Laqueuse d'art, oui pardon.
Alors moi je suis originaire du Mans. Donc une pure Mancelle. Et j'ai été très tôt dans le domaine de l'art, donc avec un bac STD2A à Priel-Chétif, donc toujours près du Mans.
Oui.
Et j'ai ensuite fait une licence de lac à l'ENSAMA Olivier de Serres à Paris.
D'accord.
Voilà, et après une année de stage pour compléter mes compétences dans des ateliers.
Ah oui.
Donc deux ans d'études pour la lac.
Trois ans, plus une de formation en plus.
D'accord, et cette année de formation, vous l'avez fait en France ?
Oui, oui, en France. Alors, je devais partir au Japon, mais Covid est arrivé et Covid m'a gâché mon voyage.
D'accord. Bon, alors, hormis ce petit incident, vous avez évolué, on a pu le voir donc à l'espace Gambetta. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement vers l'art, en fait, de la laque, à la base ?
Alors, à la base, je ne connaissais pas du tout, comme je pense sûrement beaucoup d'entre vous. Je savais ce qu'étaient les paravents asiatiques et les boîtes laquées, mais je n'avais jamais mis de nom dessus. Et ce qui m'a tout de suite attirée, ça a été vraiment l'aspect fort et brillant des lacs et la diversité de techniques qui en découle. Donc on a vraiment une diversité qui m'a tout de suite étonnée et qui m'a donné envie de faire ce travail.
D'accord.
Moi qui n'aime jamais faire la même chose, c'était très bien.
Donc ça, c'est ce qui vous a amené vers la laque. Mais alors, et qu'est-ce qui vous a inspiré après ? Des voyages, d'autres artistes ?
Alors, j'ai très peu voyagé, même si j'étais quand même en Corée du Sud, où j'ai pu faire une petite banque d'images, de photos de la Corée. Et sinon, c'est des inspirations de la nature, donc des photos que je prends ou que je trouve.
Oui.
Et sinon, au niveau des artistes qui m'inspirent, alors au niveau du travail de la dorure et de la feuille d'or, on a Klimt, qui je pense est assez connu. Et sinon, je m'inspire beaucoup des estampes japonaises. Par exemple, du travail de Kono Barei, si je prononce bien, ou encore Kosson Ohara, qui sont des grands maîtres des estampes japonaises qui représentent des oiseaux dont j'aime la composition.
Ok, très bien. Voilà, donc là, on voit vos sources d'inspiration. Mais alors, comment se crée maintenant, peut-être un peu plus technique, comment se crée une œuvre en lac traditionnelle, j'imagine ?
Alors, je ne fais pas vraiment la laque traditionnelle. Ah. Donc, la laque traditionnelle, c'est le ruchi. Donc, ça vient de la sève d'un arbre.
Oui.
Moi, je crée de la laque européenne. Donc, c'est une laque qui est apparue après le très fort engouement qu'a eu les lacs en Europe et surtout en France pendant la cour de France.
Mmh.
Et c'est une technique qui a évolué et qui diverge quand même pas mal de la laque traditionnelle au niveau des produits. Par contre, on reste dans la même technique avec la superposition de couches. La laque traditionnelle, ça vient de la sève d'un arbre qui ne pousse pas chez nous.
D'accord.
Et la laque européenne, c'est grâce à des vernis. Donc on change la matière, mais pour créer quelque chose d'assez similaire.
Parce que ça veut dire, finalement, au final, nos auditeurs, s'ils voient une de vos laques, en fait, ils ne voient pas forcément de différence. Alors,
si, quand même. On va dire la très grande différence, c'est vraiment les couleurs qui divergent beaucoup. La laque traditionnelle est rouge et noire,
oui.
Alors que les laques européennes permettent d'avoir une plus grande diversité de couleurs.
La palette est plus importante.
Voilà, beaucoup plus importante.
D'accord. Ok. Bon, alors, il faut du matériel pour faire tout ça, j'imagine.
Oui, beaucoup.
Beaucoup.
D'accord. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir faire ces œuvres en laque, et puis aussi s'il y a des matériaux spécifiques aussi que vous utilisez.
Alors, la laque, avant tout, ça se fait vraiment sur tout type de support. Donc, on peut faire sur du bois, du métal.
Métal aussi.
Oui, même du métal, oui, tant qu'il est rayé. Donc sablé, on appelle ça. Voilà, on peut aussi laquer des tissus. Le seul matériau qui est un peu dur à laquer, c'est le plastique. Qui même, je pense, c'est impossible, j'ai jamais essayé.
C'est peut-être pas plus mal, finalement.
Voilà, c'est peut-être pas plus mal, oui. Et pour la création d'une œuvre en laque européenne, on commence par l'apprêtage du panneau. C'est une technique, on utilise de la tarlatane, qu'on recouvre de blanc de meudon et de colle de peau de lapin.
Ah ça me parle un peu plus, d'accord.
Voilà. Okay. Ensuite, on passe à la réalisation du fond, où on mélange du vernis flatting avec de l'essence de térébenthine. Donc c'est beaucoup plus chimique que la laque traditionnelle. Et à ça, on ajoute des pigments colorés, donc soit naturels, soit artificiels, en fonction des couleurs.
Ouais.
Et on fait une superposition de couches de pigments avec différents matériaux. On peut faire avec une éponge pour faire du poché, avec une brosse, pour avoir la matière.
Selon l'effet qu'on veut
rendre. C'est ça, c'est exactement ça.
D'accord.
Et après que tout ça est bien séché, on le ponce pour avoir une surface plus ou moins lisse, en fonction de ce qu'on veut donner. Et puis ensuite, on a le travail du décor. Donc c'est vraiment la partie qui ressort beaucoup plus de la laque. Donc on utilise de nombreux matériaux d'assez haute qualité, donc par exemple de la feuille d'or, des poudres métalliques, des aventurines et même de la nacre.
Ah oui.
Voilà, et on peut aussi incruster de la coquille d'œuf.
Très bien.
Qui est une technique à part entière.
Ok.
Ça fait rêver quand même tout
un
ça.
Un petit peu, oui.
Oui. Puis en plus, je connais, j'ai vu le travail de Cécile et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Enfin, on continue d'en parler.
Oui, bien sûr.
Non,
il ne faut pas, il faut le dire quand c'est beau. Alors, j'imagine qu'il faut être un tout petit peu patient.
Oui, vraiment beaucoup.
Parce qu'il faut beaucoup de temps pour réaliser une œuvre.
Oui, vraiment, parce que déjà, il faut se dire qu'entre chaque couche qu'on fait, il y a 24 à 48 heures de séchage. Donc entre chaque couleur, il faut attendre. Et en plus, il fait plus froid, il faut attendre encore plus longtemps. Voilà, malheureusement.
Et on ne peut pas chauffer artificiellement, j'imagine, et tout ça. C'est pas une bonne idée.
Je vous avoue que je n'ai jamais essayé, de peur d'avoir quelque chose qui n'est pas souhaité. Et ensuite, on a aussi du temps de séchage entre chaque couche de décor. Donc, par exemple, on pose du vernis pour poser notre feuille d'or ou nos poudres.
Oui.
Et si on ne veut pas des mélanges dans les feuilles et dans les poudres, il faut bien attendre entre chaque partie. Donc plus il y aura de nombre de matières, plus le temps de séchage sera long.
D'accord. Et la réalisation est d'autant plus longue.
Voilà, on peut prendre jusqu'à un mois minimum, jusqu'à plusieurs mois.
Ok. Effectivement, il faut être un petit peu patient, ça confirme. Ok. Et donc, du coup, quelles sont vos thématiques de prédilection et les motifs que vous réalisez?
Alors, moi, je suis plutôt dans l'univers figuratif. Je suis très peu proche de l'abstrait. Et c'est surtout les thèmes de la nature, donc avec des fleurs, des oiseaux, des grues, des rouges-gorges, vraiment tout cet aspect traditionnel qu'on peut retrouver. Voilà. Et sinon, je fais quelques motifs géométriques quand même, un peu inspirés du mouvement Art déco. Voilà.
Alors, bon, on a compris que c'était pas si simple, qu'il y avait cette complexité. Et alors, pour vous, quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée lors de vos débuts?
Alors, ça a vraiment été la patience, pour tout vous avouer, parce que dans la vraie vie, je ne suis pas très patiente, j'aime quand les choses sont faites vite,
et là
c'est pas bon. Donc,
c'est pas du tout ça, là.
C'est ça, donc dans mes débuts, je voulais voir très vite le résultat, donc ça m'arrivait de sauter quelques étapes et de me retrouver justement avec des effets pas souhaités, donc de la feuille d'or dans une partie où il était censé y avoir de la poudre.
C'est ça, c'est comme ça qu'on apprend et puis qu'on devient encore plus patient.
C'est ça, donc maintenant je suis beaucoup plus patiente sur ce niveau-là et je prends beaucoup plus le temps sans sauter toutes ces étapes importantes.
Ça se voit sur vos œuvres, il n'y a pas de souci, elles sont très jolies. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier en travaillant la laque? Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle, méditative dans cet art ou pas?
Alors, je ne sais pas si, réellement si on peut dire spirituel ou, ouais. ou méditatif, mais en tout cas, quand je travaille, des fois, je ne vois pas le temps passer. Donc, surtout sur le travail de décor, où ça demande minutie, je n'entends plus ce qui se passe autour de moi. Mm-hmm. Je ne sais plus du tout ce qui se passe.
Est-ce que vous êtes ultra concentré? Ultra pas de musique, concentré, pas de tout
oui.
ça,
ah, quand... si, musique. Si, j'écoute des podcasts, ouais. beaucoup, ah, mais... D'accord. Quand on me demande de quel sujet parler le podcast, bon...
Finalement, oui. On...
Finalement, je ne sais pas grand-chose.
C'est plus voilà. un compagnon à côté, quoi.
C'est mais... ça. J'ai besoin quand même de bruit pour travailler.
OK.
Voilà. Donc, des fois, il est 14h quand je commence. Je lève la tête, il est 17h. Je ne sais pas comment ça se fait.
Bon, écoutez, c'est plutôt bien de ne pas voir le temps passer quand
oui,
on...
c'est la passion.
Oui, c'est très bien.
C'est sûr. Voilà. On a envie de savoir maintenant quels sont vos projets aujourd'hui, Cécile.
Alors, mon projet, on va dire, comme tout partie, j'aimerais en vivre.
Oui.
Mais sinon, en projet actuel, je serai présente au salon des artisans créateurs sur la place Jacobin au Mans.
Oui.
Donc pendant Noël, du 12 au 23 décembre.
Alors ça, c'est parfait comme ça. Oui, ceux qui veulent venir vous voir, ils ont déjà un
plan rendez-vous. On rappellera aux auditeurs. Oui. Du 12 au 24.
Du 12 au 23 décembre, c'est
au
ça.
Au 23 décembre.
Toute la journée, donc aux horaires d'ouverture du marché.
D'accord. Mais par contre, si on ne peut pas venir au marché, qu'on est loin, est-ce que bon, j'imagine qu'il y a des réseaux sociaux. Comment on peut vous contacter, enfin, ou pour voir vos œuvres?
Oui. Alors, on peut aussi voir mes œuvres dans un nouveau lieu dont j'ai été acceptée récemment. Je serai au Moulin à couleurs à Malicorne, normalement pendant un an à partir du mois de mars.
Bien.
Donc là, je vendrai mes bijoux.
Donc là, c'est une exposition. Ah, parce que vous faites aussi des bijoux, des petites choses comme ça.
Alors des bijoux, des boîtes.
D'accord, j'étais restée au lac, moi, dans le massif, dans le grand, moi j'étais pas sur les bijoux.
C'est ça, mon principal, c'est les panneaux, mais je réalise aussi quelques bijoux.
Ah, très bien.
En coquilles d'œufs, en nacre.
Mais c'est bien, parce que ça permet aussi certainement à des personnes de pouvoir non seulement découvrir des choses différentes, et puis en plus, en termes de budget, parce qu'on n'en a pas parlé, mais un grand plateau de lac, vu ce que vous m'avez dit, j'imagine que ça vaut quand même un petit peu d'argent. Un bijou, c'est plus petit, c'est peut-être plus accessible, ça permet de se faire plaisir de manière différente,
d'avoir
avec
un
des plus budgets. Différent aussi.
Voilà, oui, d'avoir un petit bout du monde merveilleux.
Voilà, c'est ça, quand on ne peut pas s'offrir une grande œuvre, on peut en avoir une petite.
Voilà.
Bon, c'est parfait alors. À cette période de marché de Noël, là, sera présenté à nouveau ce que vous nous dites, des grands lacs, des bijoux, enfin...
Voilà, de tout. Okay. Je vais essayer de diversifier... Les supports et surtout diversifier les budgets aussi.
Et si on est-ce que vous travaillez sur commande?
Oui, également.
Ça marche aussi, ça?
À
si on a une idée et qu'on veut avoir un panneau de telle taille pour mettre à tel endroit chez soi, qu'on a vu votre travail, qu'on se dit c'est chouette, je voudrais la même chose, mais moi je veux que ça fasse telle taille, on vient vous voir et c'est possible aussi?
Oui, c'est possible. Alors j'ai plusieurs supports de plusieurs lieux. Oh, excusez-moi, je ne sais plus comment on appelle ça. Plusieurs réseaux sociaux.
Oui, oui.
Alors déjà, il y a mon adresse mail.
Oui, Cécile Donnella.
Voilà, qui est carré. Alors, tout
comme
en minuscule, sans accent.
Okay.
carrelac.or@gmail.com.
Très bien.
Et sur Instagram?
Et sur Instagram aussi également, où là, le nom est carré-lac-or.
D'accord.
Et je suis également sur Facebook. Alors là, le petit compte a des petits soucis techniques.
Oui.
Mais qui c'est pareil, c'est carré. Mais là, du coup, avec les majuscules et les accents, carré, lac et or.
Bon, et si franchement, ils n'arrivent pas à vous retrouver, Cécile, c'est le salon des créateurs.
Voilà.
Et nous, Asialogie, on pourra toujours donner vos coordonnées.
Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir me voir.
Parce que le salon des créateurs, pardon Corinne, c'est bien...
Place
des Jacobins, là,
sous le grand Barnum.
Le Barnum, voilà. Ah oui, ok, voilà.
Cécile, merci infiniment d'être venue à Asialogie, c'est super. Vous reviendrez
oui, avec
dans
plaisir.
Temps
merci de m'avoir invitée.
Pour continuer à parler de votre travail. Et puis, c'est vraiment magnifique ce que vous faites. Et j'incite
merci
vraiment
beaucoup.
Les auditeurs à aller vous voir au Salon des Créateurs. Et puis, avant sur Instagram.
Bien
bon,
sûr.
Je vous propose une pause musicale. Didier, tu nous as préparé ça. C'est un jeune chanteur vietnamien qui s'appelle Nuit Incolore. Et sa chanson s'appelle Sous la pluie. Et ça tombe bien, il pleut.
Et il pleut.
Enfin,
et en fait,
oui, il pleut.
Il pleut, mais c'est surtout que, en plus, Cécile nous a dit qu'elle connaissait l'artiste et qu'elle aimait bien, donc finalement, on est super
voilà,
d'accord.
Ça tombe bien.
Un petit cadeau pour Cécile.
Merci beaucoup.
Les yeux dans le sable, un coup de vent et je m'efface. Tout me rend méconnaissable, tout le monde est fait d'asphalte. Une anse de froid, ça ne part pas et ça m'angoisse. Tout de moi est à l'étroit, doucement tout me remplace. dans la rue, je frissonne quand les ombres résonnent. L'inverse de moi ne me laisse pas l'automne, je ne connais plus personne. Le soir, je m'ignore. Pleure sous la pluie, peur d'être vide. Pleure dans la nuit. Que des mirages, je ne m'étonne plus à chaque naufrage. En farandole, les pages s'envolent, mais restent toujours dans la cage. Ce n'est pas grave si tous mes mots forment le plus beau des paysages. Ce n'est pas rare que tous les autres ne comprennent rien à mon visage. L'ennui n'est que le fruit des sourires qui sur moi se salissent à en pâlir. Ne me laisse pas l'automne, je ne connais plus personne. Le soir, je m'ignore. Pleure sous la pluie, peur d'être vide. Pleure dans la nuit, peur d'être guéri. Je me vois dans un film qui déçoit, et tous ces gens quand même le veulent. J'aime bien quand on doute de moi. Au moins je ne suis pas le seul. Pleure sous la pluie, peur d'être vide. Pleure dans la nuit, peur d'être guéri. Pleure sous la pluie, peur
d'être... Alors Corinne, bon, on a eu un moment de douceur et artistique avec Cécile.
Oui, ça nous a fait du bien.
C'était pas mal. Et là, malheureusement, je pense qu'on va passer à toute autre chose avec une dominante de couleurs. Mais alors là, ça va vraiment être moins gai. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet agent orange, s'il te plaît?
Oui, Didier, c'est l'agent orange. C'est un herbicide défoliant toxique que les Américains ont déversé sur les forêts et les cultures pendant la guerre du Vietnam, après le départ des Français, entre 1961 et 1971.
D'accord.
Alors, les Américains avaient pour but de détruire la végétation et les cultures qui servaient d'abri, de cachette et de vivre aussi, forcément, les cultures, aux forces du Front National de Libération, qu'on appelait les Viet Cong.
C'est un peu la politique de la terre brûlée, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Alors, l'agent orange est un des défoliants développés et utilisés par l'armée américaine sous le nom de herbicide arc-en-ciel. Très joli mot.
Oui, tu parles.
Voilà, il y en avait. En fait, c'était la. Donc c'était les herbicides arc-en-ciel parce qu'ils ont utilisé d'autres agents que l'agent orange. Et l'opération s'appelait Ranch Hand.
Ok.
La main, de la ferme, enfin la main,
c'est ça,
la main verte, on peut dire. On peut peut-être traduire ça comme ça. Alors ce poison, est devenu célèbre non seulement pour les ravages irréversibles qu'il a causés sur tout l'écosystème, mais aussi pour ses effets dévastateurs sur la santé humaine et celle des générations futures. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, Asialogie, parce qu'il y a quand même des répercussions.
Bien sûr.
Toujours actuellement. Alors, 50 ans après la fin de la guerre, ses conséquences continuent de hanter la population d'Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam et dans sa diaspora, donc les Vietnamiens de France.
Oui.
Alors, cet agent orange contenait entre autres toxiques de la dioxine qui s'est infiltrée et qui a pollué l'eau et les sols pour des années, on imagine l'impact. Et bien évidemment, tous ceux qui ont été en contact avec cette dioxine ont des problèmes de santé. Alors, ça concerne plus de 5 millions de personnes de la zone qui ont été directement exposées par les 83 millions de litres déversés, soit l'équivalent de 10 piscines olympiques.
Ah, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère.
Voilà. Alors, l'agent orange doit son nom aux bandes de couleur orange peintes sur les barils dans lesquels il était stocké.
Ah, d'accord.
Oui, et c'est le biologiste Arthur Galston qui a employé en 1970, donc au moment où ça a été déversé, le terme d'écocide pour la première fois lors d'une conférence sur la guerre à Washington.
C'était une bonne idée, oui. En quoi la dioxine, elle est si toxique pour l'être humain? Quels sont ses effets, du coup, Corinne?
Alors, la dioxine est un perturbateur endocrinien, entre autres choses. Elle s'attaque au système immunitaire. Elle est cancérigène et tératogène. On ne peut pas imaginer pire produit.
J'imagine bien.
C'est peut-être le plus puissant poison connu pour l'humain.
Ah oui, tout de même.
Oui, et les effets immédiats ont été, bien sûr, alors, des irritations cutanées, des problèmes respiratoires plus ou moins graves en fonction du contact.
Oui.
Mais il y a eu ensuite, à distance, une augmentation très significative des cancers, des maladies neurodégénératives, des troubles cardiovasculaires et aussi du diabète.
Ah, du diabète aussi.
Voilà.
D'accord.
Mais les conséquences les plus tragiques sont pour les générations qui ont suivi, avec l'apparition de graves malformations congénitales, des troubles du développement mental, donc ça c'est, on imagine, c'est quand même le pire, et on estime que des centaines de milliers d'enfants vietnamiens sont nés avec des malformations à cause de l'agent orange. Et ça ne s'arrête pas à la première génération, la dioxine reste dans l'organisme pendant longtemps, ce qui fait que ça peut durer sur des générations.
J'imagine bien, mais alors, du coup, là, on voit bien les effets directs sur l'homme. Et il y a eu aussi, je le suppose, des effets très graves sur la nature, sur la société. Enfin, ça a dû être terrible, quoi.
Oui, bah, la dioxine peut persister donc pendant des années, des décennies dans le sol. Hein. Les terres agricoles qui ont été contaminées étaient devenues complètement inutilisables, ce qui a conduit à l'époque à des pénuries alimentaires. Il y avait l'eau qui était contaminée, donc ça affectait la santé de la population, non seulement par la dioxine, mais aussi à cause de l'insuffisance alimentaire et de la pollution de l'eau. Et bien évidemment, les familles qui avaient des enfants mal formés ou frappés de maladies chroniques se sont trouvés confrontés à des difficultés financières qu'on imagine bien.
Ah, tout est lié, bien sûr.
Ah, parce que, en plus, la guerre avait complètement épuisé le pays.
Déjà.
Et à cause de ça, bah, certains enfants ont été abandonnés parce que leurs parents ne pouvaient pas s'en occuper. Donc, c'est vraiment une...
Enfin, c'est vrai que s'occuper déjà d'un enfant quand on n'a pas lui à donner à manger,
ben
et
voilà,
qu'il est entre guillemets sain, si d'autant plus s'il y a
il
du handicap associé,
avec
forcément,
des médicaments,
ça complique.
Des problèmes. Ben voilà, donc ça a été déchirant hein, pour les familles.
J'imagine.
Alors le gouvernement vietnamien, qui est un gouvernement communiste hein, à l'époque, je vous le rappelle, avait bien créé des centres de soins spécifiques pour les victimes, mais ils ont été dépassés complètement par la demande. et il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi une perte de main d'œuvre parce que il y avait des gens qui étaient malades,
ben
donc il y avait des difficultés économiques inhérentes à ce problème de santé.
C'était le but recherché, donc
voilà.
Il a été atteint. Alors, du coup, qu'a fait le gouvernement américain ? A-t-il reconnu sa responsabilité ?
Eh bien non, Didier. Pendant des décennies, il a nié toute responsabilité directe envers les victimes vietnamiennes, mais il a accordé des compensations aux soldats américains contaminés. Alors, les Américains, eux, ont eu le droit à des compensations, mais pas les Vietnamiens, bien sûr. Et les procès intentés par les groupes de défense des victimes contre les entreprises responsables, telles que Monsanto et, alors, il y en a une autre qui s'appelle Dow Chemical, ont été rejetés par les tribunaux américains. Et c'est là que va commencer le combat de Tran Tho Nga, une héroïne qui veut obtenir soutien et réparation pour les victimes d'Asie du Sud-Est et empêcher l'utilisation future d'armes chimiques dans les conflits.
D'accord, mais qui est Tran Tho Nga, s'il te plaît ?
Alors, Tran Tho Nga, c'est donc une femme qui a 82 ans et elle fait partie des 4,5 millions de Vietnamiens contaminés. Et sa vie a... Alors, j'avais dit 5 millions tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas que des Vietnamiens. Il y avait des personnes, des Américains, il y avait des étrangers qui étaient présents
aussi,
sur
imagine,
le sol vietnamien.
Oui,
il n'y avait pas que des Vietnamiens. Il y a eu donc 4,5 millions de Vietnamiens
contaminés.
Alors, sa vie a toujours été un combat à Tran Tho Nga. Elle a d'abord été résistante, elle a fait partie des forces de libération, et elle a été journaliste, et elle est devenue ensuite directrice d'école à Ho Chi Minh, c'est le nouveau nom de Saïgon, hein, Ho Chi Minh City. Elle a grandi dans la région du delta du Mékong, et je rappelle que le delta du Mékong, c'est le grenier à riz du Vietnam, à l'époque où le Vietnam était sous protectorat français. Mmh. Donc elle est née, elle est française.
Ah oui ?
Oui, elle est née dans une famille aisée, favorable à l'indépendance. Elle obtiendra un diplôme en chimie en 1965, en pleine guerre du Vietnam. Elle rejoindra les Viet Cong et deviendra donc résistante et journaliste pour couvrir les événements.
D'accord.
Et c'est en 1966, au nord de Saïgon, qu'elle sera contaminée par un nuage blanc.
Elle-même.
Elle-même.
D'accord.
Et elle aura trois filles, dont deux, qui vont naître avec une grave malformation cardiaque. Et la première est morte à l'âge de 17 mois.
D'accord.
Ça marque quand même ce genre de choses. Hein. Et quant à Trantonga, bah, elle souffre de 5 des 17 maladies répertoriées, maladies du sang, cancer, diabète, tuberculose, etc.
Oui.
Elle a longtemps pensé que ce dont elle souffrait était dû à ses conditions de vie et à l'âge.
Oui.
Et c'est seulement 40 ans après qu'elle s'est demandé si toutes ces maladies, hémolformation et celles de, sa fi- de, leur, de ses filles, n'étaient pas dues à l'agent orange.
D'accord. Donc, comment va-t-elle enfin, entamer et puis poursuivre son combat après, alors ?
Alors, ben, en 2011, elle fera une analyse de sang qui va montrer qu'elle a un taux de dioxine bien plus élevé que la moyenne. Et elle va donc rejoindre un André Bouny, c'est un pacifiste engagé, qui a écrit « Agent Orange Apocalypse Vietnam ». Elle va le rejoindre pour défendre dans son combat pour la cause des victimes et elle va déposer plainte contre plusieurs sociétés américaines et de pétrochimie en 2015.
D'accord.
Et puis, en fait, ce qu'elle avait de particulier, Trantonga, c'est qu'elle a rassemblé 3 conditions nécessaires pour pouvoir poursuivre ces Américains. Elle habite en France,
oui.
Un pays qui permet aux avocats de défendre ses propres... Enfin, elle habite en France en partie.
Oui.
Un pays qui permet aux avocats de défendre ses propres citoyens contre un autre pays.
Oui.
Elle possède la nationalité française,
oui.
Nécessaire pour intenter le procès.
Bien sûr.
Et elle est directement victime de l'agent orange. Mmh. Elle était la seule personne...
Mmh. À remplir tout ça.
Vivante encore.
Oui.
À remplir toutes les conditions pour les porter... en justice.
Ouais.
Voilà, donc c'est bien sûr hein, le pot de fer contre
ça,
le pot
bien.
De terre. Donc elle a été déboutée plusieurs fois en appel. Hein. Les pétrochimies avaient ouais. des dizaines d'avocats.
D'avocats
elle en avait
petits.
Péniblement
bien
3.
Sûr, bien sûr.
Hein, donc elle a été déboutée. Et déporté son combat en France.
Mmh.
Mais actuellement, il y a des problèmes d'immunité de juridiction qui fait qu'ils peuvent encore refuser d'assumer leurs responsabilités. Donc là, il y a une demande qui a été faite en appel
oui.
Et on en est là. Et dans 2 ans, on saura si Trantonga a gagné.
D'accord.
Voilà.
Bon, eh bien, on lui souhaite plein de courage alors. À Trantonga, parce que ça doit être un combat, effectivement,
oui.
Comme tu l'as dit, difficile. Du coup, la France,
oui.
elle fait quoi ? Elle reconnaît son engagement ou pas ?
Oui, oui, oui. Cette année, donc, Trantonga a reçu la citoyenneté d'honneur de la ville de Villejuif, en reconnaissance de sa lutte pour le droit des victimes. Et bah, elle est la 3e personnalité à recevoir ce titre, après Nelson Mandela, et puis un autre Américain, Mumia Abu-Jamal, un Américain anti-ségrégationniste. Voilà. Et puis, elle a eu une pièce de théâtre qui lui est dédiée, qui s'appelle Nos corps empoisonnés, de la metteuse en scène Marine Bachelot-Nguyen, une œuvre qui retrace sa vie de Trantonga.
D'accord.
Et donc, il faut savoir que cette pièce sera à La Flèche le 3 avril 2025. Alors, je ne sais pas l'endroit, mais je sais
oui,
que.
Oui, mais d'ici avril, on pourra redire.
On
tout
pourra
ça.
Le redire.
Okay.
Nos corps empoisonnés sera à La Flèche le 3 avril 2024.
D'accord.
Bon,
eh ben écoute,
Asialogie, c'est fini.
Et oui.
Didier, on se retrouve la semaine prochaine en podcast
voilà.
Sur Radio Alpa, toujours.
Très
et
bien.
En rediffusion samedi.
Voilà, je vous souhaite tous une bonne semaine. À bientôt.